Radio Ndekeluka, le magazine parlementaire.
Auditeurs de Radio Ndekeluka, bonjour à tous. Bienvenue dans le magazine parlementaire de ce samedi sur votre radio préférée. Il s'agit du numéro 38 pour ce rendez-vous hebdomadaire. Il est consacré à la problématique de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. L'article 46 de la Constitution de la République centrafricaine donne ce pouvoir au chef de l'État de mettre fin aux activités des parlementaires. Pour traiter de ce sujet, nous recevons Denis Modemadé, rapporteur de la Commission Loi et député de la 2e circonscription du 6e arrondissement de Bangui. En région, nous aurons la déclaration des députés du Ombomou suite à l'invasion de Bambouti. Ensuite, nous allons nous rendre à Ngaoundé dans l'Ouampindé pour rencontrer Bernard Dila, député de la localité, qui va nous parler de la situation de sa zone électorale. Nous allons de nouveau nous intéresser au projet de loi sur les armes bactériologiques adopté en 2019 par l'Assemblée nationale. Les questions écrites ou orales au gouvernement sont dans la rubrique lexique du jour. Je suis Igor Jeskin Senapay pour la réalisation de cette émission, à la partie technique Alex Pounemati. C'est parti pour ce magazine parlementaire de Radio Ndekeluka. Une fois de plus, bonjour à tous. Comme je l'ai dit au début, nous nous intéressons aujourd'hui à la question de la dissolution du Parlement par le président de la République. Cette possibilité est attribuée au chef de l'État par la Constitution en son article 46. Pourquoi les députés qui sont aussi élus par le peuple comme le président de la République peuvent être désinvestis par celui-ci? Denis Modemadé, rapporteur de la Commission Loi et député de la 2e circonscription du 6e arrondissement de Bangui.
Je crois que ce qui différencie, c'est sont les pouvoirs du chef de l'État par rapport au pouvoir du député. Et puis, quand bien même nous sommes élus par le peuple, vous savez, le chef de l'État, il est élu par tout le peuple centrafricain, alors que les députés sont élus dans leur circonscription. C'est vrai, c'est une partie du peuple dans la circonscription, c'est toujours le peuple centrafricain, mais c'est une partie du peuple, selon les circonscriptions, selon les découpages, qui élut les députés. En des termes simples, le chef de l'État jouit d'un choix sur le territoire national. Pour répondre directement à votre question, pourquoi le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée nationale? Je pourrais vous dire que c'est une prérogative légale. C'est la Constitution qui l'a prévu. Et la Constitution, c'est la loi fondamentale d'une nation. Et donc, étant donné que c'est une prérogative légale, donc naturellement, le chef de l'État a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Et personne ne peut contester cela.
Mais dans quel cas il peut dissoudre cette Assemblée?
Bon, je crois, comme je l'ai dit tantôt, c'est une prérogative, c'est un pouvoir reconnu au chef de l'État, un pouvoir que je qualifierais même de discrétionnaire. Reconnu au chef de l'État, il peut faire usage de ce pouvoir. Mais seulement, je crois que dans l'exercice normal, dans la gestion de l'État, c'est toujours très difficile et rare que le président vienne à dissoudre l'Assemblée nationale, quand bien même c'est un pouvoir qui lui est reconnu. Mais je crois que si le président est amené à penser à dissoudre l'Assemblée nationale, c'est dans le cas où le chef de l'État ne dispose pas de la majorité au sein du Parlement. Le Parlement joue un rôle très important dans la vie d'une nation. C'est le Parlement qui vote les lois. C'est le Parlement qui contrôle l'action gouvernementale. Et donc, dans ce cas, un chef d'État qui ne dispose pas de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Parlement, mais aura des difficultés à bien gérer le pays. Parce qu'on ne peut gérer le pays que par les lois qui sont édictées, soit par le gouvernement, et ça s'appelle les projets de loi, soit par les députés, c'est des propositions de loi. Mais dans la pratique, je peux vous dire que c'est les projets de loi qui prennent toujours le dessus sur les propositions de loi. Et donc, un chef de l'État qui a un gouvernement, il lui est toujours demandé d'avoir la majorité. C'est bien, c'est confortable pour un régime d'avoir la majorité au niveau du Parlement. Au cas où le chef de l'État n'a pas une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ça pose un problème. On va certainement aller dans le jeu de trouver des consensus. Il peut y avoir des alliances voilà le terme qu'il faut, l'alliance. Hein, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, c'est des jeux d'alliance qu'ils font. Et après ces jeux d'alliance, le président peut disposer d'une majorité confortable pour l'aider dans la gestion de la cité. C'est des cas très rares. Je pourrais vous dire que quand bien même que ça soit une prérogative reconnue au chef de l'État, mais il est rare que le chef de l'État fasse usage de cette prérogative.
Quelles sont les conséquences pouvant découler de cette dissolution du pouvoir législatif, Denis Modemadé?
Il y a toujours des conséquences. Il y a des conséquences par rapport à l'organisation du renouvellement de l'Assemblée nationale. Ça a un coût. Ça a un coût financier. Et dans notre cas, par exemple, où notre économie bat les ailes, vous conviendrez avec moi que ça va être un problème sur le plan financier à réorganiser la tenue des élections pour pourvoir l'Assemblée nationale des députés pour que le pays puisse redémarrer assez facilement. C'est le premier problème. Et le deuxième problème, ça peut créer une certaine instabilité politique. Hein, donc les conséquences, c'est vrai que bon, c'est un pouvoir reconnu au chef de l'État, mais ce pouvoir-là aussi a des conséquences au cas où le chef de l'État était amené à dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà un peu les quelques conséquences que je vous évoque ici.
Mais est-ce qu'un chef d'État peut gouverner sans Assemblée nationale?
Non, dans le régime dans lequel on se trouve actuellement, le chef de l'État a besoin de l'Assemblée nationale pour voter les lois que le gouvernement édicte pour faire passer sa politique. Sa politique qui n'est que l'émanation du projet de société sur la base duquel il a été élu. Donc sans Assemblée nationale, je ne sais pas, on serait dans quel régime. Mais le régime propre à la République africaine prévoit l'existence de l'Assemblée nationale. Et c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jeu démocratique voudrait que le chef de l'État dispose d'une majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour lui permettre de gérer le pays avec sérénité.
Peut-on dire que en l'absence de l'Assemblée nationale, au moment où le président dissout l'Assemblée nationale, comment il peut faire? Est-ce qu'il peut prendre des ordonnances ou légiférer?
Oui, mais ça c'est des cas très 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 rares. C'est des cas exceptionnels et très souvent la loi prévoit également des possibilités au chef de l'État hein, de légiférer par ordonnance. Mais c'est des cas très rares et puis contenus dans des dispositions légal aussi très contraignant. C'est aussi des possibilités, mais je vous assure que c'est des cas rares. Pour en arriver là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des événements qui mettent en péril la vie d'une nation par le jeu de la dissolution de l'Assemblée nationale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est également une prérogative reconnue au chef de l'État, mais je peux vous dire que c'est quand même des cas extrêmement rares.
La RCA a déjà connu un tel cas, un cas de dissolution de l'Assemblée nationale, selon vos connaissances?
Je ne sais pas, sauf erreur ou omission, parce que bon, je n'ai pas connaissance de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président. Mais je sais également que bon, par des coups de force, des coups d'État où la vie de la nation était mise en péril. Le cas le plus récent, c'est le cas Séléka. Quand Séléka est arrivé, naturellement, Séléka avait dissous toutes les institutions républicaines, notamment l'Assemblée nationale.
Radio Ndiki Luka, le MAG parlementaire.
Nous allons nous intéresser cette fois-ci aux activités menées par les députés dans leur zone électorale. Nous allons nous intéresser d'abord à cette prise de position du collectif des députés du Ombumu qui, dans une déclaration, condamne l'incursion de la ville de Bambouti par les éléments de l'UPC d'Alindaras. Ernest Mizedio, député de Obo 1.
Le 17 octobre 2019, la ville de Bambouti, située à l'extrême est de notre pays, à la frontière avec le Sud-Soudan, a été attaquée par des éléments se réclamant de l'UPC d'Ali Daras, chef rebelle bien connu, sujet nigérien. Cette attaque intervient après celle de Zemio et a entraîné le déplacement massif de 52 000 personnes vers la RDC. En ce moment, la ville d'Obo est encerclée par les mêmes éléments, asphyxiée et risque de tomber dans les heures qui suivent. Ces différentes attaques qui sont perpétrées sur les paisibles populations du Ombomu, dans l'indifférence totale du gouvernement, trahissent un plan machiavélique destiné à installer d'autres populations majoritairement étrangères en lieu et place des populations autochtones. Pour preuve, la récente publication d'une note du même Ali Daras qui dévoile ses intentions sans réaction à ce jour du gouvernement, encore moins de la MINUSCA. C'est avec indignation que les populations du Ombomou constatent leur abandon par la République depuis l'indépendance, avec l'absence d'école, de route et d'implication dans la conduite des affaires de l'État et l'indifférence de l'État face aux exactions de la LRA. Face à cette situation, les populations du Ombomou, réaffirmant leur attachement à la République, attirent l'attention du gouvernement, du peuple centrafricain et de la communauté internationale des risques de génocide dans cette partie de notre pays et de la possible récupération par des extrémistes face au vide laissé par l'État.
Du côté de Ngaoundaï dans l'Ouampéndé, le député Bernard Dila a mis en place un projet d'électrification de la ville par le biais des panneaux solaires. L'élu de la nation parle aussi des conditions de vie de sa population après l'accord de paix du 6 février. Bernard Dila.
Vous savez, quand on a devant soi une situation de sécurité, cette sécurité-là ne peut pas et ne doit pas nous empêcher de continuer à espérer. Et nous tous, toutes les initiatives que nous prenons, c'est l'espoir, c'est l'optimisme qui nous pousse à poser ces actes-là. Si nous pensons qu'il y a l'insécurité, il ne faut rien faire, mais je crois que nous ne ferons rien pour longtemps. Ce que nous demandons aujourd'hui, la protection de ces infrastructures, c'est que nous sensibilisons les jeunes pour leur dire, écoutez, ce que je suis en train de faire, c'est votre bien. Essayez de les protéger. Mais si aujourd'hui, ces groupes armés qui sont là décident de les vandaliser, je crois que nous n'aurons pas la force de les empêcher, puisqu'ils ont des armes. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces groupes armés-là? Mais nous comptons sur aussi leur compréhension, parce qu'effectivement, la gendarmerie qu'ils ont occupée, nous avons installé aussi ces panneaux solaires-là, et qui leur donnent la lumière. Donc je crois qu'en réalité, nous le faisons, et pour eux aussi, et pour la population. Donc ils vont comprendre l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire, et essayer de protéger cela. C'est ce que je peux vous dire. Mais je vous dis en réalité, et ça, c'est un appel que je lance à notre gouvernement, l'État doit faire un effort. En ce moment où on est en train de redéployer nos forces sur le terrain, l'État doit faire un effort en priorité pour redéployer les FACA et les gendarmes dans la région de Ngaoundaï. Ngaoundaï, c'est une entrée stratégique, je vous le dis. C'est par là où Sidiki se ravitaille jour et nuit en provenance du Tchad. Il y a des véhicules en entier qui rentrent du Tchad et qui vont à Kouy, à la base de Sidiki. Mais je crois que si on veut affaiblir l'ennemi, si on veut couper les voies de ravitaillement à l'ennemi, je crois que c'est par là qu'il faut commencer. C'est ça la politique des soldats romains. Quand Rome était plus fort, quand les soldats romains ont conquis le monde en entier, leur stratégie la plus simple, c'était de couper les voies de ravitaillement à leurs adversaires. Et je crois que c'est depuis des années que nous avons crié, depuis le début de notre législature, que j'ai toujours dit que, attention, Ngaoundaï, c'est la voie de ravitaillement en armes pour les groupes armés dans la zone. Il faut essayer de sécuriser. Nous avons la MINUSCA Bangladesh qui est là-bas. Mais qu'est-ce que la MINUSCA fait? Absolument rien. En ce sens que, si les armes ne rentrent que par la brousse, on comprendrait que la MINUSCA n'a pas pu intercepter. Mais les armes passent par la grande route avec des véhicules en entier et devant la MINUSCA, et la MINUSCA est là, alors que il y a ce qu'on appelle l'embargo sur les armes, et la MINUSCA qui est là est censée faire appliquer cette résolution des Nations Unies qui ont placé notre pays sous l'embargo. Pourquoi au gouvernement on doit imposer l'embargo alors que les groupes armés passant avec des armes de cargaison en véhicule devant eux, ils ne les arrêtent pas?
La population centrafricaine a aussi donné son avis sur le projet de loi sur les armes bactériologiques déjà voté cette année à l'Assemblée nationale.
Oui, moi je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que cette loi qui a été votée permettra d'éviter de nombreuses maladies. Oui, moi je souhaite tout simplement son application.
C'est une bonne chose.
C'est aussi une bonne chose. Quand les députés votent ces lois-là, c'est une bonne chose. Mais il faut veiller sur ces lois-là. Quand on vote une loi, il faut veiller sur ça. Mais si on vote et il n'y a pas vigilance sur ces lois-là, ça ne vaut même plus la peine de voter les lois à tout moment, tout moment, tout moment, et puis répéter. Ça n'a même pas de sens.
Si, c'est une bonne chose. Il faudrait qu'il y ait une mise en application. Les gens doivent appliquer cette loi. Mais si les gens n'appliquent pas la loi, le pays va rester comme ça. Et au fur et à mesure, le pays demeure dans le chaos. Donc je dirais que c'est une mauvaise chose et les gens doivent appliquer vraiment cette loi.
Ah, pour moi, c'est une bonne chose, mais c'est mieux de l'appliquer.
Vous écoutez le magazine parlementaire sur Radio Ndekeluka.
Suivons maintenant le commentaire de Émilie Béatrice Epaï, députée de Markunda et présidente de la commission Affaires étrangères sur cette loi.
Le projet de loi concerne l'autorisation à la ratification de la convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques, biologiques ou à toxines et sur leur destruction. On peut résumer à l'interdiction des armes biologiques. Donc notre pays a signé la convention depuis le 10 avril 1972 et jusqu'à présent nous l'avons pas ratifiée parce que une convention si elle doit elle peut entrer en vigueur quand il y a un nombre d'États qui ont ratifié, mais chaque État doit la ratifier pour s'approprier de la Convention. Donc notre pays ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le gouvernement nous a envoyé le projet de loi et c'est ça qui a fait l'objet du débat d'aujourd'hui, qui a abouti au vote de la loi. Aujourd'hui, la peur dans le monde, c'est que les États en conflit ne puissent pas utiliser ces types d'armes. Il y a des pays qui détiennent ces armes, comme vous l'avez entendu, c'est facile de les fabriquer. Nous avons fait appel à nos scientifiques, nous avons fait appel aux doyens de la fac de sciences et au chef de département de la chimie. On a fait appel au ministre de la Santé, qui est un médecin, qui est un scientifique. Nous avons fait appel aussi au directeur scientifique de l'Institut Pasteur. Et nous avons eu beaucoup d'éléments qui montrent que c'est facile de fabriquer des armes chimiques, même des armes biologiques. Et aussi, c'est facile qu'on importe des maladies qui tuent en masse, qui tuent à grande échelle, comme une arme biologique. Donc, aujourd'hui, notre intérêt, c'est après la ratification, qu'on mette en œuvre la convention et qu'on prenne des lois au niveau national pour inclure les dispositions de cette convention pour nous protéger avec.
Vous écoutez toujours le magazine parlementaire de Radio Ndekiluka depuis Boali dans l'Ombela Mpoko sur le 100.9 FM. Nous allons terminer avec les termes questions orales ou écrites au gouvernement à l'Assemblée nationale. Des réponses avec Moussa Laurent Gonbaba, président de cette institution.
La question orale, la question écrite sont des pratiques parlementaires qui sont prévues dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La question écrite est le moyen par lequel les députés adressent des questions précises, n'est-ce pas, par écrit au gouvernement. Et une fois par semaine, les membres du gouvernement qui ont reçu ces questions écrites ou orales répondent devant l'Assemblée nationale et apportent les éléments de réponse aux questions posées. S'il s'agit des questions orales sans débat, c'est-à-dire le ministre viendra, il va répondre précisément à la question qui a été posée et il n'y aura pas de débat qui va s'ensuivre. Sauf si l'auteur de la question qui a posé la question n'est pas satisfait, il peut reprendre, n'est-ce pas, la question pour mieux éclairer le membre du gouvernement. Toutefois, s'il y a des questions écrites qui nécessitent des débats, alors un débat sera ouvert à la suite des réponses apportées par le membre du gouvernement et donc c'est un débat qui est limité dans le temps et dans l'espace. Voilà ce qu'on appelle les questions écrites ou orales.
Ainsi s'achève ce magazine parlementaire de la semaine sur Radio Ndekiluka. Nous avons traité de la problématique de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République. Nous remercions infiniment tous ceux qui l'ont suivi. Nous disons aussi merci à l'équipe de la communication de l'Assemblée nationale. Vous pouvez réécouter ce magazine sur les www.radiondekiluka.org. Je suis Igor Jeskin, Senapai au micro. La partie technique est gérée par Alex Pounemati. Portez-vous bien, la version Sango, c'est dans un instant.